Personne n'apprend quand il n'est pas convaincu qu'il y a un intérêt, personne n'apprend quand il a peur, personne n'apprend quand il est immobile et encore plus réfractaire à un changement. C'est impossible. Or, aujourd'hui, quasiment dans toutes les organisations, on doit apprendre à travailler autrement, on doit apprendre à travailler, je dirais pas forcément plus vite, je dirais juste de façon moins contrôlée, avec un peu plus de lâcher prise, comme on dit, de façon plus itérative et surtout, surtout, sans vouloir faire parfait.
Bonjour, je m'appelle Alexandre Zermati et toutes les semaines, je vous propose une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, je reçois Caroline Loisel, auteure du Guide du futur des RH et du management, conférencière et formatrice. Caroline va nous parler de la circulation des idées, des compétences et de la reconnaissance dans les entreprises apprenantes. Je laisse tout de suite la parole à mon invité.
Je suis auteure, notamment sur le thème DRH et du management. Je suis conférencière, j'interviens dans les organisations autour de l'humain, au cœur des projets de transformation. Alors, on ne dit plus vraiment transformation digitale, hein, on dit mutation dans un monde lui-même en bouleversement. Et puis aussi, je suis formatrice, alors historiquement sur mon métier cœur qui était le métier du marketing digital et depuis 4-5 ans sur finalement la structuration de parcours de formation qui à la fois travaille les expertises mais aussi les comportements. Ça fait 22 ans que je travaille dans les nouvelles technologies, dans le numérique. Alors au début, on disait dans l'Internet. Après, on a dit dans les services mobiles multimédia. Enfin, je suis passée par toutes les phases. Et puis ensuite, on a dit dans la transformation digitale. Mon cœur de métier est donc le marketing digital. Et puis en fait, il y a 6 ans, ayant fait déjà un bon tour de différentes organisations, des petites, des grandes, des comme Orange, des comme pas jaune, mais dans une start-up qui était adossée à un grand groupe, et puis des agences, et puis aussi un cabinet de conseil, j'ai eu envie de transmettre. Alors, je pense que c'était peut-être l'approche de la quarantaine, et puis aussi un changement de vie personnelle, qui fait que j'ai eu envie aussi de maîtriser mon temps, et d'avoir le loisir de choisir quand je travaillais, comment je travaillais, et pour qui je travaillais. Donc, il y a 6 ans, j'ai fait assez simple. Je me suis dit, mon métier, c'est le marketing digital, donc je vais être formatrice en marketing digital. Et puis peut-être à la fois dans les organisations et dans des écoles ou dans des universités. Bon, évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Mon business model, pourtant, était très clair. 50% de formation dans les organisations, 50% dans les universités. Bon, évidemment, rien ne s'est passé ainsi. Les 6 premiers mois, j'ai eu des missions de conseil. Alors, des missions de conseil sur le marketing, hein, sur les réseaux sociaux, sur un projet d'argumentaire publicitaire. Et puis, sur une grosse mission, et là, la transformation digitale a commencé à me rattraper, qui était l'accompagnement du groupe Keolis sur sa transformation, où j'ai travaillé en direct avec la Chief Digital Officer de l'époque. Donc moi, j'étais consultante et je formalisais, je la challengeais sur la stratégie qu'elle allait proposer au COMEX. Et puis malgré tout, le côté formation est arrivé 6 mois après. Et là, j'ai eu l'occasion de former les équipes de France Télévisions Publicité, qui a été une grande aventure pour moi. Ça a duré 1 an et demi, donc ça a été un gros marathon. J'ai formé 210 personnes, hein, toute seule. Et là, je me suis rendu compte assez vite, au bout de du 2e-3e module, que si je me contentais de former sur l'expertise marketing digital, je faisais la moitié du chemin, j'avais aucun impact. C'est-à-dire qu'en fait, ce que me renvoyaient les gens, c'était « c'est intéressant, c'est passionnant, on a tout compris, mais on ne va pas pouvoir le mettre en œuvre ». Donc évidemment, je leur demandais pourquoi. Bah parce qu'en fait, ce que tu nous dis, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain, Caroline. Sur le terrain, les gens du digital, ils nous prennent de haut. Là, tu nous dis de poser des questions. Mais moi, je suis un expert, donc je ne vais pas poser de questions. Et puis encore moins à mon client, ça veut dire que je ne sais pas. Et puis on me disait aussi, et puis de toute façon, digital, ça change tout le temps. Donc là, ce que tu nous racontes, ça va encore changer dans 6 mois. Voilà. Et puis moi, j'ai besoin de tout savoir, de tout contrôler. Là, tu nous as juste fait du vernis. Moi, je voudrais être expert des réseaux sociaux, expert de l'ad serving, expert de la programmatique stratégique. Voilà. Donc je me suis dit, je ne vais pas pouvoir continuer dans ce chemin-là uniquement, puisque finalement, les personnes ne sont pas en mesure de mettre en pratique. Donc, je me suis intéressée aux soft skills. Et finalement, à ce que moi, j'avais appris de façon très naturelle pendant plus de 15 ans. Alors, j'avais peut-être la personnalité pour, hein, j'adore la feuille blanche. Comme on dit dans le digital, on est toujours balancé, plongé dans une piscine où il n'y a pas vraiment de bord. Il y a quelques bouées. Alors les bouées, ce sont les autres, en fait. On est interdépendants puisque moi, ce que j'ai appris en 15 ans, c'est qu'on ne peut pas maîtriser toutes les expertises du digital. Il faut l'accepter. Il faut accepter d'être interdépendant. Donc j'ai appris à ne pas savoir contrôler. Et je me suis rendu compte que c'est ça aussi, voire surtout, que je devais transmettre aux personnes qui allaient être amenées à intégrer le digital dans leur métier. Donc ça, ça a été le point de départ et le gros déclencheur il y a 5 ans et demi. Hein. Au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que finalement, mon plan de formatrice marketing digital allait forcément évoluer. Alors ça a pris un petit peu de temps. En parallèle, la vie étant bien faite, j'avais besoin de faire du développement personnel. Et là, alignement d'étoiles, puisqu'en faisant du développement personnel, je me suis rendu compte que le développement personnel, c'était surtout essayer d'identifier les croyances limitantes, nos peurs, nos angoisses, qui étaient fondées sur des schémas dans lesquels peut-être on avait vécu, que la société nous renvoyait. Et donc je me suis dit, bah, finalement le digital, il y a certainement un parallèle, puisque aujourd'hui, quand j'écoutais mes participants, je ressentais surtout des peurs, des frustrations. Ils nous prennent de haut, ils font exprès de nous embobiner avec leur jargon. Donc, je me suis dit, voilà, il y a forcément un lien avec tout ça. Et donc, je me suis intéressée à tout ce qui était évidemment milieu du coaching. Et tout comme on dit dans n'importe quel milieu aujourd'hui, il faut déciloter. Alors, j'aime pas ce mot parce qu'il est négatif. Donc, moi, je dis, il faut faire circuler. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, il faut faire circuler les compétences, le monde de la formation entre le monde du coaching, du développement personnel et le monde des expertises digitales. Donc j'œuvre à ça aujourd'hui par toujours des formations, mais des formations où j'intègre les deux dimensions. Donc je fais travailler les gens sur nos capacités de changement individuel, nos envies de changement, nos désirs. Tout passera par le désir et pourquoi on peut désirer ce changement, en dépassant quoi ? Nos peurs, nos frustrations. Et ne serait-ce que déjà rien que de les écouter, ces peurs et ces frustrations, ça ouvre le débat. Quand j'entends des organisations qui disent « on veut se transformer », mais qui en même temps n'ont pas pris le soin, le temps, l'espace, le moment pour écouter ceux qui et celles qui, d'emblée, n'ont pas envie de se transformer parce qu'elles n'ont pas forcément tous les éléments pour le désirer. Il faut absolument qu'on se prévoie dans toute organisation. Et donc, j'essaye dans toute formation de me prévoir ce sas, j'ai envie de dire un sas de... Alors peut-être pas de sécurité, un sas d'ouverture pour donner l'espace à tout ça. Et ensuite, on peut commencer. Parce qu'en fait, personne n'apprend quand il n'est pas convaincu qu'il y a un intérêt, personne n'apprend quand il a peur, personne n'apprend quand il est immobile et encore plus réfractaire à un changement. C'est impossible. Or, aujourd'hui, quasiment dans toutes les organisations, on doit apprendre à travailler autrement, on doit apprendre à travailler, je ne dirais pas forcément plus vite, je dirais juste de façon moins contrôlée, avec un peu plus de lâcher prise, comme on dit, de façon plus itérative et surtout, surtout, sans vouloir faire parfait. Thème principal, c'est la circulation. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne doit plus utiliser le terme de désiloisation. Bon, un, ça fait 20 ans qu'on l'utilise. Deux, ça ne veut rien dire de désiloter. Il y aura toujours des unités, il y aura toujours un département, un service, plusieurs services. Peut-être que dans certaines unités, on peut faire des systèmes ultra-libérés comme ces nouvelles organisations, sociocratie, holacratie, etc. Mais aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, et moi je suis assez concrète et pragmatique, on est plutôt à se dire que le sujet, c'est comment on fait circuler, et pas que les informations, évidemment non, mais les compétences, les bonnes énergies, la reconnaissance entre les différents départements, les différentes unités d'une organisation. Et effectivement, là, le meilleur moyen de faire circuler les compétences, c'est de se dire comment mon organisation, demain, j'en fais une organisation apprenante. Alors, c'est un terme qui existe depuis plusieurs décennies. Peter Senge, pour ne citer que lui, mais qui est à l'origine de ce mouvement. Mais aujourd'hui, ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire parce que toute compétence devient obsolète de plus en plus vite. Et qu'on ne va pas pouvoir, en tant qu'organisation, être dépendante d'organismes de formation. Et il faut que l'organisation, par elle-même, soit indépendante, autonome là-dessus. Alors, en gros, quand on dit organisation apprenante, moi, j'essaye de voir quelles sont toutes les initiatives concrètes qui sont faites sur l'organisation apprenante en termes de savoir pur, connaissance pure, en termes de savoir-faire, donc du savoir métier opérationnel, et dernier pan, le savoir-être, le savoir collaborer. Aujourd'hui, quand on garde un peu toutes les initiatives, on peut tout à fait les classer dans ces trois nomenclatures, dans cette nomenclature. On va retrouver, par exemple, si je commence par la circulation des savoirs, ça va être tout ce qui est, et là, de plus en plus, les entreprises le font déjà, c'est un bon signe, puisqu'on m'appelle pour ça, pour animer des événements internes apprenants. Donc, on fait des masterclass, on fait des lunch and learn, on fait venir des gens de l'extérieur. Et ça, c'est nouveau de s'ouvrir à l'extérieur et que des collaborateurs externes d'autres entreprises, des experts, des chercheurs viennent partager leur savoir dans une organisation. Donc ça, c'est toute la partie circulation de savoir. Circulation de savoir-faire, on va plus être, par exemple, dans des learning expeditions, des voyages d'études, et on peut en faire en France. Hein. On n'a pas besoin forcément d'aller dans la Silicon Valley pour découvrir des nouvelles façons de travailler. Vous avez déjà des entreprises qui le font en France et sur Paris. Vous allez avoir dans la circulation du savoir-faire aussi le parcours d'entrepreneuriat, puisque dans un format d'entrepreneuriat, vous apprenez des nouvelles façons de travailler. Et puis, dans, par exemple, plateforme peer-to-peer aussi, bien sûr, hein, dans la circulation. Et ça, de plus en plus aussi, je le vois, dans des projets qui commencent à exister. Alors, avec des formats, le micro-learning, alors ça va de 3 minutes par jour à des formats de 10 minutes. On essaie de faire des interactions, des quiz. On essaie de créer de l'entraînement entre les participants. Et puis, le dernier pan de l'organisation apprenante, c'est sur la circulation des savoirs collaborés. Et là, pour moi, un des meilleurs exemples, c'est Covea, qui a mis en place tout un programme d'accompagnement au co-développement. Le co-développement, c'est finalement comment, entre pairs, je partage des conseils sur tout ce qui est, en l'occurrence, le savoir manager, qui est une des parties du sujet de la collaboration. Et ça a vraiment des effets assez bénéfiques sur l'organisation, ce type de formation, mais qui deviennent en fait des formations qui, par elles-mêmes, peuvent s'essaimer. C'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant d'un organisme de formation qui vient de façon récurrente, qu'au fur et à mesure, les personnes qui ont été formées deviennent elles-mêmes des formateurs ou des formatrices, et qu'en fait, le rôle de formateur-formatrice, alors aujourd'hui, dans certaines entreprises, on parle de tous ces extra-rôles que vous avez en plus de votre métier, mais demain, c'est comme le digital, ce ne sera plus un sujet. On ne dira plus « je fais du marketing digital », on fera du marketing. Et chaque collaborateur aura cette double casquette, mais on ne parlera même pas de double casquette, ce sera naturel, de à la fois faire son métier et à la fois partager ses compétences et s'il a eu une formation sur un sujet, de lui-même devenir formateur ou formatrice en interne. Ça ne veut rien dire de désiloter. Face aujourd'hui à des plus jeunes générations qui ont envie de changer beaucoup plus rapidement que nous on pouvait avoir. Donc avant, des circuits de mobilité de 3 ans où vous restez 3 ans dans le même poste, c'était un peu la tradition. Aujourd'hui, au bout de 8 mois, 1 an, maximum 1 an et demi, les jeunes talents vont vous demander d'évoluer, mais pas forcément d'évoluer pour un autre salaire, c'est d'évoluer en disant qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau, qu'est-ce que je peux faire, il y a tellement de choses. Donc ils sont dans un appétit, parce que je le qualifierais pas ni de soif ni d'accélération, c'est juste dans un appétit de connaissances pour plus vite que nous par le passé continuer à apprendre des nouvelles choses. Donc, les organisations vont être obligées de répondre à cette mobilité un peu plus naturelle, plus vive, Ou alors, on va faire face à des pertes de jeunes talents, puisque au bout d'un an et demi, ça pose pas de problème à un jeune de 25 ans de quitter un emploi. Ils n'ont plus cette référence interne en tête. Il faut au moins que je reste 3 ans. Enfin, beaucoup de repères ont été bouleversés, donc ils se sentent beaucoup plus libres de changer plus rapidement. Et pour revenir sur Skillib, alors qu'il y a un projet très original sur le marché, alors en particulier c'est dans un grand groupe chez Engie, c'est vrai que ce côté circulation des compétences, des métiers qu'on devienne tous finalement dans les organisations, avant tout des talents et non pas des postes, et des talents qu'on va faire circuler dans différentes business units, ça oui, j'y crois beaucoup. On donne toujours l'exemple d'un... j'ai en tête en tous les cas l'exemple d'IKEA où on était dans la multipolyvalence, vous n'êtes jamais au même poste. Il y a des personnes à qui ça peut correspondre, d'autres moins, je peux le comprendre. Maintenant, je pense que ceux à qui ça correspond, et il y en a, et en tous les cas les plus jeunes, oui, c'est certain, c'est une bonne idée pour fluidifier un petit peu, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, tous les marchés sont... peu prévisible, et donc pour pallier ça, on a besoin d'avoir un peu plus de flexibilité et d'aller peut-être plus dans des contrats qui permettent effectivement d'avoir plusieurs missions dans une année. Donc les organisations vont être obligées de répondre à cette mobilité un peu plus naturelle, plus vive. Quand on parle du télétravail aujourd'hui, qui est un vrai sujet, moi je remarque toujours qu'en général la salle se coupe en deux. Donc il y a, d'après mes statistiques très subjectives et absolument pas benchmarkables, mais voilà, j'ai 50% de managers qui sont très ouverts au télétravail et 50% où on sent que ça vient énormément chatouiller sur le sujet du contrôle et du pouvoir. Je ne vais plus pouvoir faire ce que je faisais avant, je ne vais pas voir s'ils travaillent vraiment. Alors c'est marrant parce qu'en France, on a toujours ce côté de suspicion. Et donc pour que quelques pourcentages de personnes, d'individus, qui vont potentiellement, peut-être, à un moment donné, entre guillemets, l'expression consacrée, profiter d'un système, on fait des lois et on se dit qu'on doit forcément, empêcher l'ensemble des collaborateurs d'avoir cette liberté-là. C'est bien dommage. Pour reprendre sur Skillib, par exemple, c'est un exemple très, très vrai. Virginie Verdière, qui est à l'origine du projet, enfin qui l'a mené en tous les cas, elle s'est battue pour que sur cette plateforme de matching de compétences, de croisement des compétences avec des postes existants, le collaborateur ait la liberté de déclarer lui-même ses compétences sans validation ni des RH ni du management. Elle a dû se battre pour ça. Seulement, on ne peut pas dire aujourd'hui il faut être co-acteur de la transformation, vous devez être responsable de votre parcours et ne pas faire confiance aux gens. C'est impossible, ça ne marchera pas. Et la confiance, elle passe par, oui, vous êtes autonome, tu sais quelles compétences tu as, tu les déclares, tu en as la possession, tu en as la liberté. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la confiance. Voilà, la confiance qui pour moi, alors ça a toujours été un de mes grands sujets quand moi-même j'ai été manager. Et je fus manager, mais quand j'ai été manager, je sais que à chaque fois, le cœur du sujet, on revenait à la confiance. Si la confiance, elle n'est pas au départ d'une relation, si à peine arrivé dans un bureau, au bout de 3-4 jours, vous sentez un esprit de contrôle, vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même. C'est impossible. Et pour moi, la confiance, alors ça, elle doit être là. Après, elle doit évidemment se confirmer. Et on peut évidemment perdre la confiance d'un manager, de ses collaborateurs, c'est dans les deux sens. Mais la confiance, elle doit être là. Donc le travail, c'est le même sujet. Télétravail, le management, pour moi, c'est faire confiance dans les talents, faire confiance dans leur envie de travailler à ses collaborateurs. Et c'est un travail sur soi. Parce que pour faire confiance aux autres, bah, faut se faire confiance à soi. Moi, je suis effectivement plus dans dire que demain, le rôle, c'est plus d'être fédérateur des bonnes énergies, faire circuler les intelligences collectives, inciter les gens à ce qu'ils s'apprennent des choses entre eux. Donc, ce fameux rôle plus de coach. Et d'ailleurs, j'ai la joie de le faire avec des étudiants. à l'EDEC. Je les accompagne en dernière, c'est sur des projets business, hein, donc avec des vraies entreprises en face qui donnent des sujets à résoudre. Ils ont 5 mois pour les résoudre. Mais on sort le meilleur quand on est en position de coach. Je leur impose rien. Je les fais questionner sur leur sujet. Parfois, je leur dis, moi, je l'aurais fait comme ça, mais après, c'est votre liberté. Il y a d'autres coachs en plus. Moi, je suis la coach référente, mais il y a d'autres coachs qui viennent une fois par semaine qui sont différents. Et d'ailleurs, parfois, ils me disent, ah, mais c'est marrant, vous ne dites pas tous la même chose. Je dis, justement, c'est pour vous donner la liberté de choisir. Donc, je ne sais pas, peut-être que demain, est-ce que le modèle, ce ne serait pas un manager avec son équipe, mais 2-3 managers coach qui accompagnent et qui ne sont pas dans la vérification et l'inspection des travaux finis, mais qui sont plus dans comment chacun va donner le meilleur de soi-même dans ce projet. Ce qui n'est pas du tout le même angle de vue. Alors, déjà, indépendamment du contenu du feedback, c'est juste le faire plus souvent. Je ne sais pas pourquoi, en France, on attend l'évaluation, un point formel pour faire du feedback. Le feedback, tu peux le faire à tout moment. Déjà, il y a une récurrence du feedback qui devrait être comme un réflexe, une mécanique qu'au départ, on devrait s'imposer, d'ailleurs. Et encore une fois, ça, c'est des pratiques qui s'essaiment. C'est-à-dire que plus on va t'en faire, plus toi, tu vas le faire. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle dans notre cerveau des neurones miroirs. Donc, par mimétisme, c'est magique. Quand tu es dans le métro et que devant, on te tient la porte, bah, toi, tu vas tenir la porte de la prochaine personne qui va arriver. Donc, si demain, tu commences à avoir plusieurs personnes qui font du feedback, ça va se faire. Seulement, il faut trouver les premiers. Alors déjà, on peut compter sur la culture internationale. Donc, si vous êtes dans une grande organisation, vous pouvez compter sur le fait que, par exemple, les anglo-saxons sont beaucoup plus habitués à faire du feedback que nous. Donc, eux peuvent être les premiers ambassadeurs de ce mouvement. Alors, j'ai eu la chance d'interroger aussi Faustine Durier, qui a créé une start-up qui s'appelle Coco Worker. Elle est sur le sujet de la circulation de la reconnaissance. Parce que déjà là, en fait, son constat, c'est de dire aujourd'hui, la culture, les valeurs sont de plus en plus importantes, sauf qu'elles ne sont pas incarnées. Et qu'il n'y a que le feedback, il n'y a que les comportements aussi pour les incarner. Donc, comment je crée un lieu, un moment, pour que cette reconnaissance ait lieu? Elle dit aussi, c'est quand même dommage que la reconnaissance, elle ne soit en général que descendante. Manager qui fait des reconnaissances. Alors qu'il y a des formes de reconnaissance partout, en transverse, dans une réunion, de plus en plus, on est on travaille en transverse. Donc, elle a créé Coco Worker pour ça, et elle commence à pas mal l'implémenter dans des organisations. Alors évidemment, toujours à titre de pilote, sur des premières unités, des premiers départements, mais ça commence à bien fonctionner. Et donc, le sujet, c'est finalement... Alors, il faut aussi... C'est pas parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu mets en place un outil que ça y est, c'est magique, les gens vont se faire de la reconnaissance. Mais tu essayes de créer les conditions pour et tu accompagnes avec une volonté RH et une volonté managériale de porter ça. Donc, tu as le droit à 3 kiffs par mois. Les reconnaissances que tu fais, le feedback que tu vas faire... C'est sur des éléments qui correspondent aux valeurs de l'entreprise. Donc, c'est des comportements. Tu as peut-être 3-4 comportements par valeur. Donc, admettons, tu as 4 valeurs. Tu as maximum 12 comportements clés. Donc, que ce soit l'audace, que ce soit l'innovation. Et par quoi, concrètement, ça peut se matérialiser? Et donc, voilà, il y a un partage de témoignages et une visibilité aussi. Parce que le problème de la reconnaissance, si je prends le feedback d'un côté positif, c'est qu'elle n'est pas partagée, elle n'est pas visible aujourd'hui. Tu l'as fait en one-to-one à quelqu'un. Et or, aujourd'hui, on a quand même besoin, et d'ailleurs, les méthodes agiles, c'est exactement ça, pour reboucler avec ta question. Les méthodes agiles, elles font quoi? Elles rendent visible le travail qui est fait par le collectif de façon itérative et de façon hyper fréquente. Donc voilà, en termes de pratique, par exemple, Coco Worker est un bon exemple. Et puis, je pense qu'encore une fois, c'est les rituels aujourd'hui qui nous empêchent d'être dans du feedback récurrent. Donc, on connaît un peu plus là ce qu'ont mis en place les grandes startups de la Silicon Valley, la méthode des OKR, qui commence aussi à poindre son nez dans certaines organisations, qui incite à une forme de mise au point, j'aime pas le terme de reporting, mais de mise au point plus récurrente, au moins une fois par mois, sur des objectifs qui du coup sont ajustés déjà en cours d'année. Et qui du coup incite forcément le collaborateur et le manager à se parler et à se dire au fait où on en est, quoi, et quel est le feedback à ce moment-là. Alors, en fait, l'agilité, pour moi, donc c'est encore un mot et on l'a tellement utilisé qu'on ne sait plus trop ce qu'on met derrière. Alors, de façon basique, on va te dire, c'est des méthodes, des outils, des process, des formes d'organisation. Très bien. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si tu fais que cet aspect très hard, tu ne prends pas tout le sujet. Donc, je redis que le sujet, c'est aussi l'agilité, c'est au-delà des méthodes, des process, des nouvelles formes d'organisation. C'est des espaces de travail. L'espace agit énormément sur les façons d'être, les façons de collaborer. L'un va pas sans l'autre. C'est les postures managériales qui ont évolué. Parce que t'as beau avoir des méthodes agiles et un super espace collaboratif, si le manager il a toujours son bureau fermé, bizarrement, je suis pas sûre que ça puisse fonctionner jusqu'au bout. Et quatrièmement, la connaissance de soi. Donc, pour moi, l'agilité, c'est agir, et c'est ça qui est compliqué, c'est agir sur ces quatre paramètres de façon quasiment parallélisée. Alors, je vise un monde idéal, mais moi, je vois trop souvent ce sujet de dire on prend l'agilité par une des dimensions. Et en général, on l'apprend souvent par le déménagement. Donc, tu as déménagé, mais tu n'as pas fait évoluer les postures managériales. Ou alors tu le prends par le sujet des méthodes. Alors ok, tu as les méthodes, mais tu n'as pas des espaces. Et puis la connaissance de soi, on ne l'a pas. Alors que les méthodes agiles, si tu ne te connais pas toi, ça crée beaucoup de frottements, les méthodes agiles. Beaucoup. Tu es en interdépendance, tu es en itération permanente, tu es beaucoup plus au contact des autres. Tu dois être très clair sur ce que tu es en train de faire. Tu ne dois plus être dans des conversations qui mettent en avant ton ego. Tu ne dois plus être dans le côté influence, côté politique. Bon. Ben ça, c'est quand même un sacré bouleversement au-delà de la méthode qui est plus itérative. Je synthétise, je caricature complètement, mais pour moi, l'itération, ça augure une démultiplication des interactions qui fait que si tu n'as pas la connaissance de toi avec ou l'évolution des postures managériales et les espaces qui vont bien, ça va être compliqué.
Je remercie mon invité de s'être prêté au jeu et je vous invite, si cet épisode vous a plu, à le partager autour de vous et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'AZAP.